Chapitre 10. La lutte entre les deux écoles. Malgré le désastre qu'a déterminé pour le weissmanisme la nécessité de concessions incompatibles avec l'essence même de ce système, il y a encore des néo-darwiniens qui ne se tiennent pas pour battus. Il est facile de limiter le terrain sur lequel la lutte continue, et c'est ce que je vais faire brièvement ici. Tout le monde est d'accord sur l'importance énorme du principe de la sélection naturelle dans la formation des espèces, et de ce côté, le triomphe de Darwin est complet et incontesté. Au point de vue de l'hérédité des caractères acquis, les néo-darwiniens sont arrivés à accepter celle des allomorphoses, mais tiennent toujours bon contre celle des automorphoses, qui est au contraire le fond du néo-lamarckisme. Inséparable de cette question de l'hérédité est celle de la variation même. Les automorphoses, résultat d'une réaction de l'ensemble de l'organisme sous l'influence d'un stimulus extérieur, déterminent naturellement des variations qui sont précisément en rapport avec le stimulus d'où elles proviennent. Tel est par exemple le développement d'un organe dont il est fait un usage fréquent. Ces variations sont directement adaptées, immédiatement utiles. Elles apparaissent dans une direction définie, sous l'influence des conditions de milieu. On peut en dire autant des allomorphoses. L'action du milieu sur l'organisme, même lorsqu'elle se produit directement sur chaque élément, est déterminée par la nature du milieu et la nature de l'organisme au moment considéré. La variation par allomorphose apparaît donc aussi dans une direction définie, mais elle est sans rapport immédiat avec les besoins de l'individu. La coloration des ailes des papillons dans les expériences de Weissmann peut être nuisible aux êtres chez lesquels elle se produit. C'est affaire à la sélection naturelle de conserver les variations utiles et de faire disparaître celles qui sont dangereuses, tandis que la variation par automorphose était directement adaptée aux conditions qui l'avaient fait naître. Est-ce à dire que, dans ce cas, la sélection naturelle est inutile au mécanisme de l'adaptation? J'ai montré ailleurs que la coordination qui constitue la vie de l'animal résulte précisément de la sélection naturelle intervenant à chaque instant entre les éléments histologiques de son corps et se traduit par l'assimilation fonctionnelle qui renforce seulement les organes utiles. Donc, si on considère pour un instant l'organisme décomposé en ses éléments, une automorphose revient à une série d'allomorphoses se produisant sur tous les éléments considérés comme des individus. Mais par suite de la réunion de tous ces individus en un organisme coordonné, la sélection naturelle agit immédiatement pour conserver les allomorphoses utiles et faire disparaître les allomorphoses nuisibles, comme cela avait lieu, mais plus lentement pour les allomorphoses générales de tout à l'heure, de telle manière que la variation par automorphose nous paraît immédiatement adaptée. Et ceci nous amène à donner une nouvelle définition de l'automorphose et de l'allomorphose. Toutes deux proviennent de l'action du milieu sur l'organisme, mais la première se produit par l'intermédiaire de la coordination préexistant dans l'individu, la seconde se produit sur les éléments comme s'ils n'étaient pas coordonnés. Exemple. Voici un piège à rats dont le ressort est tendu. Je puis enduire d'une couche de peinture un grand nombre de parties du piège sans le faire fonctionner, et l'enduit produira exactement le même effet que si les pièces du piège n'étaient pas coordonnées en vue de prendre des rats. Allomorphose. Au contraire, je fais jouer le mécanisme. Tout se passe d'une manière précisément prévue par la coordination des pièces de l'appareil, et la variation qui en résulte est une conséquence directe de cette coordination. Automorphose. Eh bien, l'organisme animal est comme ce piège à rats. Seulement, au lieu d'être inerte quand il a fonctionné une fois d'une certaine manière, il est au contraire devenu plus apte à fonctionner de nouveau de la même façon. Les actions habituelles s'exécutent avec une facilité croissante. Les automorphoses résultant du fonctionnement habituel sont justement, pour Lamarck, l'une des causes principales de la variation des êtres. Mais puisque l'adaptation de ces automorphoses est le résultat de la sélection naturelle appliquée au tissu, il y a, me semble-t-il, moins de divergences qu'il ne paraissait entre les néo-darwiniens et les néo-lamarckiens. Et aussi, il paraît difficile, par suite, de concevoir que les automorphoses ne puissent être transmises par hérédité comme les allomorphoses. Or, Weissmann lui-même a été obligé de déclarer possible l'hérédité des allomorphoses. Je n'insiste pas davantage pour le moment sur la lutte entre l'école néo-lamarckienne et l'école néo-darwinienne. La troisième partie du présent volume sera entièrement consacrée à l'étude d'une question, le mimétisme, qui constitue un des terrains les plus favorables pour la discussion de la valeur des arguments de ces deux écoles biologiques.